Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, nous dit Jésus donc en Matthieu 19. L'image est parlante et a priori ça montre que non seulement ce n'est pas facile pour un riche d'être sauvé, mais même a priori pas possible du tout. Parce que faire passer un chameau par un trou d'aiguille, c'est quand même très compliqué. Et d'ailleurs, Jésus dit à la fin que de toute façon, c'est impossible. Et Pierre dit, mais qui peut être sauvé? Et Jésus dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc ça semble simple et clair, une bonne condamnation des riches, comme on croit en lire un certain nombre dans l'Écriture. Mais en fait, je crois que l'interprétation simple, genre lutte des classes, ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que je ne crois pas qu'il y ait de bons pauvres et de mauvais riches, ou en tout cas que tous les pauvres soient bons et que tous les riches soient mauvais. D'abord parce que on est toujours le pauvre de quelqu'un et le riche d'un autre. Donc être riche ou pauvre, c'est finalement très relatif. Même ceux qui revendiquent dans la rue parce qu'ils ont du mal à boucler leur fin de mois en faisant la grève parce qu'ils se considèrent comme pauvres, vous le savez, sont plus riches que 95% de l'humanité sur Terre. Donc oui, il y a toujours plus pauvre que soi. Et même quand on se croit pauvre, il y a plus pauvre et on est le riche d'un autre. Et quand on se croit riche, eh ben, il y a toujours un plus riche que vous au-dessus. Bon. Donc riche ou pauvre, en soi, ça ne veut rien dire. Et puis d'autre part, vous le savez aussi, il y a aussi des pauvres qui sont exécrables et des riches qui sont formidables. Même si on prend que la société française, on peut dire le pauvre chez nous, c'est le SDF. Mais il y a des SDF épatants, et on en a le mardi, on les accueille, ils sont souvent effectivement mieux que moi, que vous, que beaucoup d'autres. Mais il y a aussi des SDF qui sont des ordures et qui sont vraiment des personnes absolument exécrable, odieuse, détestable. Et il y a des riches qui sont pénibles, et il y a des riches d'une générosité, d'une gentillesse, d'un accueil, d'une capacité d'émotion qui nous dépasse tous. Donc je refuse absolument cette lecture binaire, si vous voulez, qui se contenterait de penser que l'Évangile condamne les riches, a priori, et que, en tout cas, l'idée de se dire que l'Évangile serait là pour condamner celui qui donc est plus riche que moi, autrement dit, c'est prendre l'Évangile uniquement pour alimenter ma propre jalousie vis-à-vis du voisin. Je ne crois pas du tout que ce soit l'objet. Donc, bref, je récuse cette interprétation simpliste de condamnation du riche. Et cette image étant par ailleurs très curieuse, amusante, je crois qu'elle nécessite un complément d'enquête. Et donc d'abord, prenons cette image, le chameau et le chat de l'aiguille. Pourquoi Jésus a-t-il choisi ces éléments du chameau, passant par le chat de l'aiguille, deux éléments totalement hétéroclites, pour essayer d'exprimer son propos? Alors, est-ce qu'il a voulu dire que c'était totalement impossible? Oui, sûrement, mais pourquoi un chameau et pourquoi le chat de l'aiguille? Il aurait pu trouver d'autres images de choses impossibles. Alors, il y a différentes solutions, et pensez bien, je ne suis pas le premier à me poser cette question, et l'histoire du christianisme regorge de solutions astucieuses. La première, qui date du 5e siècle, on la trouve pour la première fois chez Cyrille d'Alexandrie, donc au 5e siècle, c'est de dire qu'il pourrait s'agir, en fait, d'une erreur de copiste. En effet, vous connaissez peut-être pas beaucoup de grec, mais ça ne vous étonnera pas que le chameau, en grec, ça se dit camélon. Ça a donné camel en anglais et le chameau, donc, en français. Or, camélon, qui s'écrit avec un eta, est très proche d'un autre mot grec, camilon, avec un iota, qui se prononce de la même manière, qui se prononçait de la même manière à l'époque. On disait camilon dans les deux cas. Et camilon avec un i, nous dit la tradition chrétienne, c'est un mot grec qui désigne le câble de marine, une grosse corde, si vous voulez. Et donc, on peut penser que, au début, Jésus n'a pas utilisé une image très hétéroclite. Il a dit, c'est plus compliqué pour un gros cordage de passer dans une petite aiguille parce que c'est un trop gros fil, si vous voulez. Donc, on comprendrait la logique, en quelque sorte. Bon, alors, j'ai longtemps d'ailleurs défendu cette thèse. En fait, j'ai été très déçu d'apprendre qu'elle est fausse, que Camillone n'a jamais désigné un cap de marine. C'est une invention du 5e siècle. Le mot n'est jamais utilisé ailleurs pour désigner ça. Donc, a priori, ça ne fonctionne pas. Mais comme il y a toujours des rebondissements, j'ai appris ensuite qu'en fait, c'était vrai quand même. Parce que même si en grec, le mot Camillone n'est pratiquement inexistant, néanmoins, Camillone en grec vient de l'hébreu. Il n'y a pas beaucoup de mots de notre langue qui ont une étymologie hébraïque, mais là, c'est le cas. Puisque le chameau, en hébreu comme en arabe, à peu près, ça se dit gamal. Et kamal, ça donnait kamel, donc le chameau. Et en hébreu, ça fonctionne. Gamal, c'est à la fois le chameau et aussi une corde, peut-être faite en poil de chameau ou une corde pour attacher les chameaux, je ne sais pas. En tout cas, il y a bien un lien entre gamal, qui voudrait dire à la fois le chameau et la corde. Donc, comme Jésus a dû dire cela en araméen, probablement, j'admets l'idée que Jésus n'a pas parlé vraiment de chameau, mais d'une corde, d'un fil trop gros pour passer dans le trou de l'aiguille. C'est possible même au niveau du sens, parce que du coup, on pourrait dire que cette petite parabole serait un appel à, je dirais, à maigrir, c'est-à-dire à se faire plus mince. Et en fait, pour entrer dans le royaume de Dieu, il ne faut pas grossir en sainteté, s'accumuler des bonnes œuvres, être de plus en plus important, de plus en plus considérable, mais au contraire, il faut se faire tout petit comme une souris pour entrer dans le trou de l'aiguille. Et qu'en fait, c'est une invitation à, je dirais, à l'humilité et à la simplicité. En effet, le risque du riche, je ne dis pas que tous les riches sombrent là-dedans, mais le risque du riche ou de celui qui a un esprit de richesse, il y a des pauvres qui ont un esprit de richesse parce qu'ils ont peu, mais ce qu'ils ont, ils y tiennent, et il y a des riches qui ont un esprit de pauvreté parce qu'ils ont beaucoup, mais ils savent qu'en fait, ils ne possèdent rien, et qu'ils sont venus nus sur terre et qu'ils repartiront nus. Donc le risque du riche, c'est de, que ce soit en argent, en pouvoir, en ce que vous voulez, hein, c'est de se croire important, de se croire fort, de se croire supérieur aux autres, alors que le royaume de Dieu, c'est tout le contraire. C'est pas de vouloir écraser l'autre, mais c'est au contraire l'humilité, la simplicité, et c'est pas de se croire fort et inébranlable, absurdité, demain ta vie peut être redemandée, mais c'est de se savoir faible. Donc on pourrait dire que ce serait donc un appel finalement à l'humilité en disant c'est pas le plus gros qui va rentrer dans le royaume de Dieu, mais au contraire celui qui se fait le plus humble et le plus petit. Cet appel à l'humilité, on le trouve souvent dans l'Évangile, comme dans les Béatitudes par exemple, où il dit effectivement « heureux ceux qui sont pauvres en esprit », donc ceux qui ont l'esprit de pauvreté. Il ne dit pas « heureux ceux qui sont riches en bonnes œuvres, en sainteté, en réussite », mais ceux qui sont pauvres. Ou il dit « heureux ceux qui sont humbles et ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre ». Donc voilà, probablement, effectivement, on peut le lire comme une prédication un peu morale, s'opposant aux orgueilleux, au ridicule de ceux qui, comme la fable de La Fontaine, sont grenouilles et voudraient se faire aussi grosses qu'un bœuf. Donc, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il ne s'agit pas simplement de savoir le critère pour être sauvé, parce que le royaume de Dieu, c'est pas pour plus tard, c'est dès ici-bas. Ce que nous souhaitons pour ce monde, c'est dès ici-bas le fait de vivre heureux, en paix avec nous-mêmes et avec les autres, et que même dès ici-bas, eh bien, je reconnais que nous crevons dans ce monde de personnes qui se croient quelqu'un alors qu'ils ne sont pas grand-chose. Et nous crevons dans ce monde de gens qui sont arrogants, qui nous écrasent de ce qu'ils sont, de leur supériorité, de leur réussite, de leur pouvoir, de leur jugement, de tout cela. Et le royaume de Dieu, ça n'est pas ça. Le royaume de Dieu, c'est la simplicité, c'est l'humilité, et de dire, mais mon ami, je suis tout petit et je me fais tout mince parce que je te laisse effectivement de la place et je n'ai pas de prétention à être grand-chose. Magnifique dans ces psaumes de montée où il dit « Je ne prétends rien de supérieur et de grand, mon âme est en moi comme un petit enfant auprès de sa mère ». Donc voilà, le royaume de Dieu ne se gagne pas par la force ni par la violence, mais il est tout en douceur, en humilité et en finesse. Alors voilà, ça pourrait être un appel à maigrir, vous êtes un trop gros câble, et bien maigrissez pour être un fin fil et passer dans l'aiguille, se faire petit par rapport aux autres. Ce qui ne veut pas dire se dévaloriser, ni manquer de confiance en soi ou renoncer à agir. Jésus n'a pas renoncé à agir, il n'avait même pas d'ailleurs une faible opinion de lui-même apparemment, mais il n'est pas venu pour écraser les autres, il n'est pas venu comme un puissant, comme un roi, mais il a toujours accueilli même le plus petit et le plus faible. Donc ça c'est bien, mais néanmoins cette solution ne me satisfait pas entièrement parce que je trouve que la leçon est affaiblie en quelque sorte. En effet, si ce que je vous ai dit est vrai, ça voudrait dire que dans le fond, ça n'est pas impossible de passer par le trou de l'aiguille. Il suffit de maigrir, il suffit de se faire pauvre. Or Jésus ne dit pas « vous pourriez y arriver, mais il faut que vous vous délestiez de choses et d'autres », mais il dit juste « c'est impossible, impossible ». La corde, elle pourrait passer en se faisant mince, c'est une question de dimension, alors que le chameau, il ne peut pas, et un chameau ne sera jamais assez petit pour passer d'un trou d'une aiguille, donc je maintiens mon chameau. Alors, autre solution, toujours qu'on trouve chez les pères de l'Église, là un peu plus tard, d'après mes recherches, à partir du IXe siècle, solution qui a été reprise par Thomas d'Aquin au Moyen-Âge, et même dans un passage de Shakespeare d'ailleurs, qui prétend que le chat de l'aiguille, ça aurait été le nom d'une porte dans la muraille de Jérusalem. Vous savez, il y a des grandes portes, et puis il y aurait eu dans la muraille de Jérusalem une toute petite porte qu'on appelait le chat de l'aiguille parce qu'elle était petite et que dans cette porte, un chameau ne pouvait passer que s'il était débatté et en se baissant, en s'agenouillant. Voilà. Et donc ce chat de l'aiguille, ce ne serait pas un véritable trou d'aiguille, mais ce serait la porte de cette muraille de Jérusalem dans laquelle on aurait pu passer en se dépouillant de ce que l'on possède, donc on enlève le bas du chameau et en se baissant. Donc autrement dit, dans ce cas, il y aurait quand même moyen d'entrer dans ce chat d'aiguille, juste avec deux conditions, le dépouillement et d'autre part, l'humilité de s'agenouiller et la prière. Alors, étudions ça. Débattez le chameau, pourquoi pas? Effectivement, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est bon de se rappeler que nous sommes venus nus sur terre et que nous en repartirons nus. Et il est bon parfois de rappeler que les possessions sont provisoires et sans valeur et que donc nous devons nous recentrer sur l'essentiel et que l'essentiel, ça n'est jamais ce que nous possédons parce que nous devons apprendre à valoir pour ce que nous sommes et non pas pour ce que nous possédons. La vraie valeur d'un être, c'est ce qui reste quand on enlève tout ce qu'il possède. Et le royaume de Dieu, c'est la vérité de l'être. Ce n'est pas d'essayer de tromper tout le monde par des beaux habits brillants ou en essayant de briller par ce que l'on possède. Ce que l'on possède est une absurdité totale. Et je crois d'ailleurs que, évidemment, il y a un travail constant dans sa vie d'apprentissage du détachement, en quelque sorte, pour retrouver la vraie valeur d'un être. Et donc, d'accord, admettons qu'il faille, pour entrer dans le royaume de Dieu, apprendre au détachement, pas forcément devenir pauvre en quelque sorte, mais en tout cas au détachement, et on entre dans le royaume de Dieu de cette manière-là. Et admettons qu'il soit bien de s'agenouiller, de baisser la tête, c'est-à-dire soit de prier Dieu ou de s'incliner devant les autres. Le message moral est très bien et formidable. Simplement, deux problèmes à cette solution. Le premier, c'est que les historiens sont formels. Il n'y a jamais eu à Jérusalem de porte s'appelant le chat de l'aiguille. Voilà, c'est réglé. Donc l'explication est fausse. Ça n'a jamais existé. Jamais. Après, l'histoire, on a appelé dans certaines murailles une porte qu'on a appelé trou de l'aiguille, mais à cause du texte de Jésus. En tout cas, il n'y a jamais eu à Jérusalem une porte de ce nom-là. Et d'autre part, une fois de plus, cette explication ne me convient pas parce que, du coup, ce serait possible je peux entrer dans le chat de l'aiguille. Il suffit que je me débarrasse d'excès de mes biens, je me détache de ce que je possède, même si je le possède néanmoins, et que je m'incline dans la prière. Et là, hop, j'entre comme une lettre à la poste dans ce chat de l'aiguille. Or, Jésus dit bien, c'est impossible aux hommes, impossible aux hommes. Donc, vous pouvez débattre le chameau, vous pouvez le faire agenouiller, ce que vous voulez, le chameau ne passera jamais par le trou de l'aiguille. Donc, ça ne va pas. Moi, j'ai d'autres solutions dans mon escarcelle, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous laisser en route. J'en ai d'autres. Alors, les autres sont un peu plus difficiles à trouver. Et en particulier, j'ai cherché dans la Bible, curieusement, dans l'Ancien Testament, il n'y a rien qui fasse référence ni à l'idée du chat de l'aiguille, ni à l'idée du chameau, en quelque sorte, dans ce sens. Alors, j'ai cherché dans la tradition rabbinique, c'est-à-dire dans le Talmud et le Midrash, texte que Jésus connaissait très très bien, que ses interlocuteurs connaissaient et qui donc faisait partie de l'enseignement qu'il vivait. Et dans le Talmud, en particulier le Talmud de Babylone, il y a différents passages où il est question d'un animal qui passe par le chat d'une aiguille. Là, il ne s'agit pas d'un chameau, mais d'un éléphant. Les spécialistes pensent que c'est parce que cette version du Talmud a été écrite à Babylone, où il y avait plus d'éléphants que de chameaux, et que dans le Talmud de Jérusalem, ça aurait été un chameau, le plus gros des animaux connus, en quelque sorte. Et plusieurs fois dans le Talmud, donc, il y a l'image de l'éléphant ne pouvant pas passer par le trou d'une aiguille, comme indiquant quelque chose de totalement impossible ou de totalement absurde. C'est-à-dire, c'était en fait le plus gros qu'on connaisse et le plus petit qu'on connaisse de l'autre. À ce moment-là, l'idée, c'est que, effectivement, il ne serait vraiment pas possible pour un homme d'être parfait, vraiment pas possible pour un homme de mériter le royaume de Dieu, mais que le royaume de Dieu ne se gagne pas en devenant de plus en plus gros, si vous voulez, ou de plus en plus parfait, mais il se reçoit tout simplement. C'est Dieu qui nous permet d'entrer dans le royaume, ça n'est pas nous qui y entrons de force. Et que l'idée que nous puissions entrer de force dans le royaume est une absurdité totale. C'est absolument impensable. Donc sans Dieu, pas de royaume. Et donc là, vous voyez, il n'y a pas besoin ni de câble, ni de porte, c'est juste indiquer quelque chose d'impossible. Il y a encore une autre solution, encore plus fine, alors là, attention, c'est l'alphabet hébraïque. L'alphabet hébraïque comporte 22 lettres, qui commencent par Aleph, Bet, deuxième lettre, qui a donné alphabet d'ailleurs. Aleph, Bet, la troisième lettre, c'est Gimel. Et Gimel, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire le chameau. Et donc, le chameau, chaque lettre a un nom, si vous voulez. Et donc, Gimel, c'est le chameau qui veut dire le chameau. Ça veut dire aussi, d'ailleurs, en hébreu, bizarrement, Gamal, ça veut dire aussi l'abondance, la richesse. Ah tiens, c'est amusant, ça, voilà que le mot chameau, en hébreu, c'est peut-être pas tout à fait un hasard, veut dire à la fois le chameau et aussi l'abondance et la richesse. Donc, je reprends, c'est la troisième lettre de l'alphabet. Quelle est la quatrième lettre de l'alphabet? Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Dalet, la quatrième lettre de l'alphabet qui est juste après le chameau. Dalet, ça veut dire la porte. Tiens, c'est amusant, voilà que dans l'alphabet, j'ai un chameau et juste après, j'ai une porte. Une ouverture. Et que donc, il faut passer du chameau à la porte. Autrement dit, il y aurait une invitation de passer de la richesse à l'ouverture. Pas forcément de faire passer l'un par l'autre, mais il faut passer de l'un à l'autre. Et ça, c'est une habitude chez les pédagogues hébreux de faire réfléchir les enfants sur l'ensemble des lettres de l'alphabet. Il faudrait que je le fasse un jour, là je ne peux pas tout vous expliquer. Je vous dirai le début, tenez, parce que ça concerne aussi le baptême que nous allons faire tout à l'heure. Les deux premières lettres, je vous l'ai dit, c'est Aleph, Bet. Aleph, ça veut dire apprendre en hébreu. Donc, première chose dans la vie chrétienne, c'est d'apprendre l'évangile. Si vous n'avez aucune connaissance de l'évangile, de l'enseignement, de la religion, de quoi que ce soit, eh bien, on reste là, il ne se passe rien. Donc, première chose, apprendre. D'ailleurs, au moment du baptême, on dit, vous ferez connaître à cet enfant l'enseignement chrétien, d'autres choses si vous voulez, mais en tout cas cela. Bet en hébreu, ça veut dire la maison. Et donc j'apprends, et ensuite je suis accueilli dans la maison, deuxième sens du baptême, où on dit que l'enfant est bienvenu dans la maison du Seigneur. Et donc, j'apprends, je travaille, je réfléchis, je lis les textes bibliques, j'écoute les prédications. Ensuite, je vais dans la maison du Seigneur, je vais à l'église où je suis bienvenu. Après, j'arrive au guimel, c'est-à-dire à la richesse et à l'opulence, parce que je me dis, moi je suis formidable, je connais bien l'évangile, je vais à l'église, je suis un bon chrétien, donc je me sens important. Et après, l'alphabet me dit, attention, quatrième étape, maintenant que vous êtes quelqu'un de formidable, dalet, la porte, c'est-à-dire l'ouverture. Si vous restez à votre chameau, vous êtes juste un chameau au mauvais sens du terme, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de pénible, vous êtes juste un intégriste, et il faut passer du chameau à l'ouverture, quelle que soit votre science, quelle que soit votre grandeur morale, votre générosité dans les œuvres et tout, passez de cette grandeur-là à l'ouverture aux autres, la porte qui est le fait d'accueillir l'autre, grand ou petit, et la porte qui est de sortir de là où je suis pour aller vers l'autre et pour donner. Et donc voilà, il faut, si vous voulez avancer dans l'alphabet du chameau, à l'ouverture. Bon, je vous ai dit, je ne vais pas vous faire les 22 lettres, mais je vais avancer encore un peu plus loin, parce que, un peu plus loin, à la 19e lettre, on trouve le kof. Le kof qui veut dire le trou de l'aiguille. Ah, alors ça avance, tout à coup, voilà, le trou de l'aiguille. Et d'ailleurs, c'est comme en français, vous savez, le cul en français, ça fait un rond, et puis il y a la petite queue, qui est l'image du fil qui rentre dans le trou du kof, dirais-je, c'est-à-dire dans le trou de la lettre. Et donc le cul en français représente exactement cette image du trou de l'aiguille, et ça veut dire ça en hébreu. Kof veut dire le singe ou le trou de l'aiguille. Et donc, il faut passer par plein de lettres, je vous les dirai une autre fois. Et donc, ouverture, encore plein d'autres choses. Et à un moment donné, il faut passer par le kof, c'est-à-dire par le trou de l'aiguille, pour arriver finalement à la dernière lettre de l'alphabet, qui est le tav, et qui est le royaume de Dieu, l'accomplissement de tout. Comme Jésus a dit, je suis l'alpha et l'oméga, mais comme il a parlé en hébreu, il n'a pas dit alpha et oméga, il a dit je suis l'aleph et le tav, la première et la dernière lettre. Et entre ces 22 lettres, il y a plein de choses par lesquelles il faut passer. Et donc il faut passer par le kof, c'est-à-dire par le trou de l'aiguille. Il faut passer par là. Le trou, c'est un vide, c'est un manque de quelque chose. Alors ça, j'ai souvent prêché là-dessus, on peut le dire que, effectivement, une fois de plus, on ne rentre pas dans le royaume de Dieu en bourrant sa chose de sa vie, de bonnes œuvres ou de sciences, etc., mais plutôt en faisant de l'espace, en faisant des vides. Et ça peut être l'humilité, dont j'ai parlé tout à l'heure, ça peut être la confession des péchés, où je reconnais, Seigneur, qu'il y a des manques dans ma vie. Et c'est là où je peux grandir. Ça peut être l'écoute, la disponibilité vis-à-vis de l'autre, parce que si je suis tout le temps en train de parler, d'agir, l'autre n'a plus de place, disponibilité par rapport à Dieu, et même dans ma relation aux autres, que je ne sois pas toujours à donner des leçons, mais aussi à parfois savoir écouter et faire silence. Donc va pour le trou. Il faut dans ma vie des trous, voilà. Et c'est important pour avancer. Mais ce trou d'aiguille a quelque chose qui m'intéresse, c'est qu'il est minuscule. C'est vraiment un tout petit trou. On peut le comprendre de deux manières. Soit d'une façon un peu négative, pour dire, c'est pas facile. Et donc, passer par ce trou de l'aiguille, c'est une grande difficulté, parce que c'est pas un énorme porte par laquelle vous entrerez facilement. Passer par un passage minuscule. Vous connaissez tout ça très bien, Matthieu 7, 13, quand Jésus dit « Entrez par la porte étroite, large en effet et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, il en est beaucoup qui le trouvent, mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et bien peu sont ceux qui le trouvent. » Donc voilà ce petit trou d'aiguille difficile à trouver. Et il faut pour ça bien le chercher, il faut être en quête, il faut être attentif. C'est comme, j'allais dire, comme de chercher voilà, une aiguille dans une botte de foin. Pas facile. Et ensuite, quand vous aurez l'aiguille, cherchez le trou de l'aiguille. Encore plus compliqué. Et quand vous aurez trouvé le trou de l'aiguille, passez par lui. Ou alors, bonne nouvelle. Ce trou est petit et finalement, ça ne me déplaît pas. Ce n'est pas juste une menace de dire, vous savez, ça va être terrible. Mais c'est une bonne nouvelle parce que ce chameau que je suis trop souvent encombré de toutes les bosses de mes attachements, de mes péchés, de mes égoïsmes et tout cela, ce chameau que je suis, eh bien, il peut passer par ce minuscule trou d'aiguille de Dieu. Et donc, vous voyez que ce trou dans lequel je dois passer n'est pas un gouffre dans lequel je tombe et je disparais, je suis englouti. Ce n'est pas une citerne qui me tuerait, mais c'est au contraire un tout petit trou, tout petit, qui ne m'engloutit pas, autrement dit, et qui ne me détruit pas. Et là aussi, je suis persuadé que quand, justement, on donne le baptême à un enfant, on ne dit pas, on engloutit l'enfant dans une sorte de logique qui l'empêcherait d'être ce qu'il est, mais au contraire, on lui donne un tout petit plus qui lui permet d'être encore plus que lui-même et de se développer encore plus lui-même comme il est, sans qu'il disparaisse. Et ce trou, eh bien, cette petite ouverture vers Dieu, elle me plaît aussi parce que, voyez-vous, pour entrer dans le royaume de Dieu, il suffit d'une toute petite ouverture vers Dieu. Je ne dis pas que pour aller vers Dieu, vous devez être totalement ouvert dans toute votre vie à Dieu. Il suffit d'un minuscule trou d'aiguille dans votre vie qui passe vers le royaume. Et c'est à travers ce tout petit trou que toute votre vie peut s'engouffrer pour être transformée. Et il suffit d'un tout petit accès à Dieu, même minuscule, pour que Dieu nous sauve et que Dieu nous prenne par là et nous amène à lui. Et ça, on le trouve même dans la, encore une fois, dans la tradition juive, dans un magnifique commentaire du Cantique des Cantiques, le Cantique Rabba, où il dit, je vous lis, « Le Saint béni soit-il, dit à Israël, mes fils, ouvrez-moi une porte de repentir, comme avec la pointe d'une aiguille, et moi, j'ouvrirai pour vous des portes par lesquelles entreront des chariots et des charrettes. » Magnifique ça. Ouvrez-moi comme un trou d'aiguille. Et si vous ouvrez même comme un trou d'aiguille à Dieu, Dieu fera passer par ce trou des chars et des charrettes, et des chameaux et toutes les caravanes des choses les plus précieuses que vous voulez. Parce que c'est vrai que dans ma vie, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de plaintes. Des plaintes pas terribles, sans doute, d'orgueil et d'égoïsme, ou de plaintes terrestres, hein, d'activité, de loisirs, de travail, de devoirs, de soucis. Et ce n'est pas en rajoutant encore de sainteté, de bonnes œuvres, d'exigences morales que je me sauverai. Mais le sens peut-être de notre vie spirituelle, c'est non plus de tout donner justement et de s'engouffrer dans une citerne qui nous viderait de tout, mais de trouver ce petit trou d'aiguille, cette petite lumière si petite qui nous met en communication avec le ciel. Comme cette image de l'étoile que j'aime tant, évidemment, puisque c'est le nom de notre Église, l'étoile dans la nuit a une toute petite lumière comme une pointe d'aiguille qui me donne confiance dans la lumière, parce que même si tout est nuit, je vois une étoile et par l'étoile, je sais que la lumière existe. Eh bien, c'est ça la foi. J'ai un tout petit trou de lumière, d'accès à Dieu, et je dis c'est en ça que je crois, et non pas dans l'ensemble de l'obscurité qui m'encombre. Et donc l'étoile dans la nuit, signe d'espérance, ce sur quoi je peux choisir de construire ma vie comme un trou d'épingle par lequel je veux passer entièrement, et c'est de construire sur là-dessus. Alors ça peut sembler difficile parce que nous sommes des lourdeaux, comme des chameaux encombrés, comme des camions de déménagement remplis de bazar et de choses qui nous encombrent, et nous sommes invités à oublier tout ça pour passer par le trou de l'aiguille. Alors ça, ce n'est pas facile, hein. Jésus ne dit pas d'ailleurs que ce soit facile, mais il dit que c'est possible avec l'aide de Dieu. Mais en tout cas, il ne dit pas que nous soyons dispensés de passer par le trou de l'aiguille. Il ne dit pas « c'est pas grave, c'est impossible, donc faites autre chose ». Il dit simplement, vous devez passer par le trou de l'aiguille. Pour vous, vous n'y arriverez pas, mais avec l'aide de Dieu, vous pouvez y aller. Donc nous sommes invités à chercher et à désirer de tout notre cœur cette minuscule porte qui mène vers le ciel, et quand on la trouve, s'y engouffrer. Et cette petit trou d'aiguille, ça peut être l'espace, un moment fugace de foi, comme un grain de moutarde. J'ai à un moment donné quelque chose, un petit grain de sentiment de quelque chose en Dieu, dans l'éternité, dans l'absolu. Eh bien, je m'engouffre là-dedans et je passe tout entier par là. C'est peut-être un moment d'espérance, un moment de joie, une sorte de vision fugace de Dieu ou de la paix comme un éclair, une pointe de lumière, et de s'en saisir comme d'un trésor et de passer tout entier par cela, en se laissant, je dirais, avaler par le chat de l'aiguille. Alors certes, tout ne passera pas, hein, vous laisserez peut-être un petit peu des choses en route, un peu de superflu, mais ce n'est pas très grave, vous accéderez en tout cas, vous, tout entier, au royaume de Dieu. Et donc ce trou, voilà, si petit soit-il, n'est pas pour moi une mauvaise nouvelle. Mais il est au contraire une bonne nouvelle, parce que seul, je ne pourrai rien, et ce n'est pas ma grosseur, ma taille, ma réussite qui peuvent me sauver. Ce n'est pas non plus que je doive me dépouiller, maigrir, m'humilier, prier, etc. Oui, d'accord, il faut le faire, faites-le, c'est très bien, etc. Mais surtout, c'est cet appel à, avec l'aide de Dieu, à passer tout simplement par ce chat de l'aiguille. Et alors, que nous soyons comme, nous devenions comme le fil qui passe dans l'aiguille, la sainte aiguille de Dieu, et que nous puissions servir ainsi à construire, à fabriquer, je dirais, à coudre un vêtement éternel en nous laissant tirer par cette aiguille céleste, ce vêtement éternel du monde, un vêtement de joie, de lumière et de beauté. Et donc voilà, mes amis, ce chameau dont Jésus nous traite, ce qui n'est pas très sympathique et agréable, mais pourquoi pas, et voilà ce chat de l'aiguille qui est le plus beau des cadeaux que Dieu nous donne, si minuscule soit-il, il est d'une grandeur infinie. Amen.